Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Allons-nous débattre vraiment aujourd'hui? Je ne sais pas, ça dépend de vous. Vous qui écoutez l'émission, enfin non, parce que vous qui écoutez l'émission, du coup elle est déjà enregistrée donc vous pouvez rien faire. Mais vous qui avez déjà écouté l'émission avant et qui avez participé à celle que vous écoutez maintenant, vous pouvez débattre de manga. Cagnard, qu'est-ce que tu vas dire aux auditeurs?
Bah que je les aime avant tout.
Très bien, bah on va voir si tu vas dire ça. Julie, qu'est-ce que tu vas dire à nos auditeurs ce soir?
Moi je vais leur dire merci de nous écouter, de nous soutenir.
Et toi Romain, tu vas leur dire quoi?
Bah ça dépend de ce que eux ils disent. Moi prendre des engagements avant de savoir.
Tout repose sur vous.
Imagine on tombe sur un négationniste. Bah voilà, je vais pas lui dire que je l'aime.
Un négationniste de Arakawa.
Ah bah si, évidemment, on va lui dire merci. Après le salon du lit.
Tout repose sur vous dans cette cinquième de couf, c'est la libre antenne.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards!
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer, aimer les auditeurs de la cinquième de couvre. Et ouais, c'est de vous dont on va débattre. Ou c'est avec vous, je sais pas. On va voir ça dans quelques instants. Bon, alors je sais pas.
On a rarement débattu des auditeurs quand même.
C'est vrai. Salut Julie, salut Cagnard, salut Robin. Comment allez-vous?
Salut.
Salut, ça va. Et toi?
Oui, très bien. Écoute, okay. Là en ce moment, je suis en vacances pendant que tout le monde écoute cette émission.
Tant mieux.
Donc, c'est que ça va.
Là, ouais, alors que nous, on est en train de taffer là.
Eh ouais, comme des.
comme des taffeurs.
Exactement, exactement. Premier auditeur, c'est parti. On va parler à quelqu'un qui s'appelle Maxime. Très joli prénom.
Alors, je sens tellement
c'est quoi, c'est
le piège.
C'est
un message enregistré de Maxime. Il va se lancer.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir,
Maxime.
Oui, tu es
Bonsoir,
fan
Maxime.
De Sirène, Maxime.
Salut. Vous allez bien? Bonjour Maxime.
Bonjour Maxime.
Bonjour Maxime.
Alors, le reste de l'équipe pense que c'est un enregistrement de moi-même que j'ai calé. Alors Maxime, est-ce que tu peux expliquer que tu n'es pas moi? On peut parler
Et non,
même
je
temps
ne
comme
suis
ça.
Pas Maxime Bender.
Maxime Bender, écoute-moi. On sait où t'habites. On va te retrouver, mon gars. On sait que t'habites 3.
Bien, exactement, mon manga préféré est Sirène.
Ouais. Arrêtez. Bon, salut Maxime, sois le bienvenu dans la cinquième de couve. Merci d'être avec nous. De quoi voulais-tu que l'on parle?
Ben merci beaucoup à vous pour l'invitation. Alors j'avais une question qui me taraude depuis plusieurs années à vrai dire, parce que vous commencez quand même à rouler votre bosse. Et à force, vous avez écumé les maisons d'édition. Et ma question était, eh bien, quelle était votre maison d'édition préférée aujourd'hui? Et bien sûr, pourquoi?
Oh, le piège!
Ah ouais, c'est très piégeux!
Et oui, bien sûr!
Oh, le piège!
J'aime pas trop cette question, Maxime. Est-ce qu'on peut passer à un autre auditeur, Maxime? Parce que je sais que de toute façon, il n'y a que des Maximes là, qui vont suivre.
Non, figure-toi que tout le monde ne s'appellera pas Maxime dans cette émission. Délicate question. Délicate, parce que du coup, si on y répond, on va se faire blacklister par les...
On n'y a pas déjà répondu, non? Ça, non, j'ai un devoir de réserve, donc je ne vais pas forcément... Non, en vrai...
Moi, je me réserve mes devoirs.
En vrai, moi, je dirais Glénat, mais c'est vraiment sans aucun conflit d'intérêt, quel qu'il soit. C'est juste que c'est vraiment par cet éditeur-là que je l'ai découvert, le manga, et que si je dois, je pense, faire la liste des titres que j'ai le plus chez moi, c'est les titres de cet éditeur-là. Après, j'aime bien Pika, mais pour une petite coquetterie qu'ils ont, c'est qu'ils ont créé leur propre typo pour faire les lettrages dans les bulles. Alors c'est un truc un peu de nerd, hein, mais je trouve que c'est une coquetterie qui me plaît beaucoup, de se dire voilà, tu peux créer ton identité en tant qu'éditeur en montrant au lecteur, en ayant fait ce choix qui finalement a l'air anecdotique, mais finalement crée une vraie identité à leur titre. Je trouve que tu peux reconnaître un titre Pika parce qu'en fait ils utilisent une typo qui est celle qu'ils ont créée pour leur titre, et voilà, ça je trouve ça très stylé, donc je les remercie.
Qu'est-ce que j'ai le plus dans ma... J'imagine qu'en nombre, effectivement, on doit être dans les trois historiques, Glenna, ouais, bah oui. Kana, Pika.
Mais après, il faut donner des titres à un moment, ouais, aussi. Hein.
Des titres. Non, il faut donner ton éditeur préféré, Kanya.
Ouais, mais une fois que tu as donné le nom de la maison d'édition, il faut donner un ou deux titres quand même.
Un ou deux titres de manga de la maison d'édition.
Non, tu peux donner des titres, ah, de, oui, chansons, très bien, comme tu veux. Maxime, de toute façon, c'est toi là, qui est en train de poser la question.
Je suis sûr de comprendre ce que tu voulais dire. L'éditeur préféré, c'est franchement pas évident.
C'est très difficile.
Parce que ça dépend sur quoi.
Oui.
Moi, je vais avoir une affection pour la maison d'édition Kihoon, mais j'arriverai même pas à dire pourquoi. Vraiment, mais depuis de longue date, je pense que c'est vraiment genre depuis Jackals, tu vois, avoir sorti des titres comme ça, je sais pas, il y avait un truc à l'époque, ça me parlait, on avait une résonance de génération.
Je vais être tout à fait honnête, ça me surprend pas tellement que tu cites Kihoon, Max, mais oui, je pense que...
Je vais être totalement honnête, ça me surprend pas que tu dises Glenna, Robin. je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression d'être dans un whodunit et que tout le monde joue un rôle. Alors, je vais essayer de prendre un rôle aussi.
Vas-y, prends vite, hein, parce que...
moi, j'adore Naban.
Pose ce chandelier.
Moi, j'allais dire Kodansha et Shogakukan,
ouais,
mais...
ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça parle japonais. Ça parle japonais tout de suite.
Après, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, je suis très embêtée, vraiment, parce que je ne sais pas à quoi répondre. Je me rends compte que effectivement, nos bibliothèques, elles sont très panachées, quoi. Enfin, il y a de tout. Il y a des titres qui ont disparu des
maisons d'édition. Sans limonade. Enfin, panaché sans limonade, quoi.
Oui, c'est vrai. Je te l'ai bien. Non, mais on est très... Enfin, chanceux, je trouve, parce que on a des histoires de plein de magazines différents, et en plus qui donc sont disponibles en langue française, chez des éditeurs aussi très différents. Et comment départager entre tous ces trouveurs.
Et toi, Maxime, du coup, tu poses cette question, mais tu as une réponse à ça?
Ah non, moi j'en ai aucune, c'était seulement pour vous piéger.
Ah ouais, genre vraiment, c'est...
Ah, la question piège d'emblée.
On est d'accord.
Bien sûr, bien sûr.
C'est un acteur que Maxime a payé, on est d'accord.
Exactement, c'est pour mes cachets. Non, je pense que Naban, aujourd'hui... Alors, bien évidemment, Kihoon, hein, pour moi, objectivement, c'est sûrement la maison qui se détache le plus
donc,
du lot.
Donc tu es vraiment après, Maxime Bender, effecté... en fait. Non.
C'est surtout que tu viens de dire objectivement, ça veut dire que ça cache quelque chose.
J'ai commencé à m'énerver.
Exactement.
Quand j'ai entendu objectivement.
Voilà, il est sorti de ses gonds.
Bien sûr.
Après.
Je pourrais dire. Pardon.
Non, vas-y.
Ah bah non,
donc,
mec, vas-y,
parle. Kihoon est.
Non, j'allais dire non. Après, c'est. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de parler de Naban qui est incroyable parce qu'il propose. Enfin, l'offre patrimoniale, elle est incroyable. Les choix de titres sont phénoménaux et le travail est accompli éditorial et enfin un pur banger comme on dirait.
Putain, c'est fou, je suis absolument pas d'accord, quoi.
Parce que moi j'allais penser plutôt à Kata, tu vois,
non,
pour
mais
le,
attends,
le côté.
Je le devais interroger le faux Maxime.
Le Maxime avec une moustache.
Ah, t'as une moustache.
Évidemment.
Ah, bah, exactement. Pour pouvoir les distinguer.
Il est dans
exactement
la cuisine
comme
avec
notre Maxime, du coup.
Oui, mais moi je rêve d'avoir une moustache, mais on me l'interdit à la maison.
Quel titre de Naban?
Eh bien,
c'est à toi que
clairement,
je parle, Maxime. Non, pas toi, Maxime. Maxime.
Ah, pardon.
Moi, j'ai adoré Jésus.
Ah, très bien. Très intéressant. Mais vas-y, tes titres de Naban, du coup. Maxime.
Alors, le faux Maxime avec la moustache.
Oui.
Ça Maxime, devient confus.
Si t'étais vraiment pardon. Maxime, tu te reconnaîtrais, en fait.
Exactement. Non, clairement, les fleurs du passé, ça a été ma grosse surprise là dernièrement, les 4 tomes, voire 5 qui vont arriver bientôt, c'était phénoménal. Enfin, super romance, super bien construite, et ça fait du bien de revoir ce titre qui était déjà apparu en France. Et non, je trouve que c'est assez proche de ce qu'on connaît déjà dans nos librairies, mais en même temps avec un petit pas de côté, toujours mignon dans l'histoire un peu inspirée d'Alice au Pays des Merveilles, etc. C'était vraiment bien. Enfin, j'ai passé un bon moment sur cette lecture.
C'est ça qui te fait kiffer, le petit pas de côté?
Ouais, j'aime bien les petits pas de côté.
Ah non, mais t'as raison.
Mais du coup,
je peux faire un petit pas de côté, moi ? Parce que du coup, c'est quoi votre magazine japonais de prépublication préféré ? Ah, le piège.
Moi, j'aimais bien Fellows, mais je pense en ce moment, c'est Harta. Haruta, pardon.
J'aime tellement le Shonen Jump. C'est vraiment nul comme réponse, mais...
Moi, je dirais Afternoon, je pense, parce que voilà, c'est...
C'est cool aussi. Voilà.
Ah, le Big Comic aussi. Voilà.
Mais bon... Est-ce que c'est mon devoir de réserve? Non, mais oui, Afternoon, je trouve que c'est un magazine. En plus, en l'occurrence, on a eu le privilège d'interviewer un de leurs éditeurs et tout. Et je trouve que c'est un magazine qui a vraiment une philosophie, moi, qui me parle beaucoup, quoi, en termes de leur vision de la création. Parce que voilà, le Jump, c'est très cool, mais il y a un côté très grosse machine, quoi. Alors que Afternoon, tu sens plus l'artisanat éditorial qui me parle plus, quoi.
Et toi, Maxime?
Eh bien, à vrai dire, je vous avoue, je ne sais pas du tout parce que je suis ce genre de consommateur qui attend les sorties françaises et qui découvre dès que ça sort en France.
Mais t'inquiète pas, donc tu es tout à fait normal.
Ah bon, tant mieux, ok. Après, bien sûr, le Shonen Jump par pur classicisme, hein, mais bon, en même temps, vu ce qui est sorti du Shonen Jump, compliqué de pas passer par lui.
Est-ce que t'as quelques titres du Shonen Jump à nous évoquer que t'adores, tu vois, vraiment ?
À part Psyrène.
Maxime, oh n'influence pas Maxime, s'il te plaît.
Non, mais alors bon, forcément, One Piece, etc., c'est compliqué de pas en parler.
On parle pas de
mais
ça.
Là, récemment, voilà, c'est ça. J'ai découvert Riri Dragon.
Ah !
Phénomène.
Très stylé.
Voilà. Et franchement, je suis pas tant tranche de vie que ça. Et pourtant, la proposition du dragon le dragon qui découvre ses pouvoirs avec le papa qui est à 20 mètres à côté de la maison, mais la gamine l'a jamais vu, ça m'a fait beaucoup rire. Et franchement, j'ai très hâte du tome 2 là.
Maxime, je te propose de rester avec nous pour le prochain auditeur qui n'a pas pu être avec nous parce que. Il travaille. Donc il a dit non, mais j'ai une idée, je suis en train de bosser, donc je peux pas être avec vous. Donc je te propose de participer et de répondre à la question avec nous. Maxime, il nous a demandé ce qu'on pensait globalement des adaptations de manga en film. La question toujours incroyable. Est-ce qu'on en voit aujourd'hui des vraiment bonnes ? En long métrage, hein. Je parle pas des séries télé, je parle vraiment du long métrage.
Défini aujourd'hui.
Adaptation, défini aujourd'hui, film.
Moi je sais pas, le premier qui me vient à l'esprit c'est Look Back, qui était quand même...
Un film d'animation, un OAV d'animation.
Non mais après c'était bien parce que t'avais un one shot qui du coup trouvait vraiment une... qui était pas condensé, compressé pour tenir dans les 1h40, 2h de film, même long métrage.
Hein. Est-ce qu'il entendait sa question par vraiment adaptation live ou c'était...
En fait, non, sa question c'est les adaptations de manga au cinéma sont-elles de qualité ?
Ah ok. Parce que là, typiquement, alors je ne l'ai pas encore vu, mais j'avoue que le Chainsaw Man là qui vient d'être... on voit les affiches un peu partout, si vous êtes parisien. j'avoue, ça me donne plutôt envie, alors que d'habitude, je suis un peu... Bon, oui, ok...
Oui.
Enfin, voilà, le côté machine industrielle avec
la licence
comme machin. Et là, de ce que j'en ai vu et les affiches et tout, après c'est peut-être Chainsaw Man, c'est Fujimoto, j'ai un avis un peu biaisé, mais, mais ça me donnait vachement plus envie et je suis assez curieux de voir comment ils vont faire de ce matériau de base qui n'est pas si mainstream que ça, mine de rien, enfin... qui est mainstream parce que c'est le Jump et tout, mais c'est pas Demon Slayer, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire pour en faire un film, tu vois, comme ça, à destination du grand public, ça m'intrigue pas mal.
Mais il a pas précisé s'il parlait de live ou d'animation. Ouais. C'est globalement, est-ce qu'on trouve que c'est de qualité, les adaptations version cinéma. Moi, je reste toujours très, très partagé. Parce que j'ai pas l'impression que c'est toujours très considéré.
En fait, ça dépend, je dirais, de comment c'est fait aussi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on parle des trucs vraiment purs, développement, exploitation de la licence, avec ces fameux longs métrages d'animation d'une licence connue ? Est-ce qu'on parle vraiment des vrais, entre guillemets, vrais, avec des 12 000 guillemets, adaptations dans
genre
le sens...
Ghost in the Shell, version live.
Ghost in the Shell, version live, ou Alita et tout. c'est, tu vois, pour moi, c'est pas des projets que tu peux ranger dans la même case, quoi. Donc, et honnêtement, moi, de ce que j'en ai vu, j'ai plein de critiques à faire à ces propositions-là, malgré tout. Mais j'étais quand même assez agréablement surpris par ce qu'a donné Ghost in the Shell, le film, avec Scarlett Johansson et le Alita de Robert Rodriguez. Je trouve que malgré tout, ce sont des propositions hyper intéressantes en termes de quelle vision aussi ça donne pour l'amener aussi à un autre public de ces œuvres-là. Moi, je trouve ça plutôt cool. Mais voilà, après, je prétends pas avoir la vérité ou quoi, mais...
Moi, j'ai exactement toujours le même problème depuis des années. C'est que, alors, en fait, j'arrive pas à savoir si le problème vient de l'industrie ou si le problème vient de moi, tout simplement, tu vois. Genre, qu'est-ce que j'attends d'une adaptation ? Ça, par contre, c'est une question que je n'ai jamais réussi à résoudre jusque-là, tu vois. Je ne sais pas, en fait, si quand on parle d'une matière que je connais, tu vois, que j'ai lue, que j'ai vue ou autre, je ne sais pas ce que je dois attendre d'une adaptation. Je ne sais pas si elle doit me surprendre ou si elle doit être... complètement fidèle à l'œuvre de base, et là je vois vraiment large, tu vois, et c'est pour ça que je pars vraiment du principe que en fait c'est moi le problème, c'est moi et ma relation avec l'objet de base,
oui,
tu vois, qui
pose
exemple, problème.
Par exemple, l'adaptation cinématographique de Slam Dunk, elle t'a touché, elle a gagné un cagnard, quoi.
Alors, un cagnard d'or, je dirais.
Le cagnard est une nouvelle crypto-monnaie que je comptais lancer. Merci, Maxime, d'avoir spoilé le truc. Mais justement, je trouve que c'est là le cœur du problème, tu vois. C'est que qu'est-ce qu'un cagnard slam dunk ? Ça ne vaut pas un cagnard gun, tu vois. C'est là le vrai problème que j'ai, tu vois. C'est que typiquement, là, par exemple, sur Netflix, il y a une série qui vient de sortir qui s'appelle Nero, qui est clairement adapté de loin d'un roman que j'adore qui s'appelle Gagner la guerre. Et en fait, j'ai toujours ce problème de est-ce que j'attends d'une adaptation qu'elle soit fidèle ? Et à ce moment-là, en fait, 90% du temps, je vais me faire chier sur une adaptation qui est fidèle et qui me repompe exactement ce que je connais. C'est le principal reproche que j'ai sur les animés de manga, tu vois. Vous me racontez exactement l'histoire que je connais des mangas, ça m'intéresse pas. Et en même temps, à partir du moment où une adaptation prend trop de liberté, va y avoir mon côté gardien du truc de...
Gatekeeper
de... ça me plaît pas, c'est trop différent, tu vois. Donc, pour moi, il y a vraiment un côté où... en fait, c'est entre toi et toi-même. C'est entre toi, ce que t'attends, ce que t'as projeté d'une œuvre, tu vois. Et typiquement, sur les films, Slam Dunk, j'ai adoré. Saint Seiya, j'ai détesté. Tu vois, mais... Enfin, il y a...
T'as pas détesté, t'as rigolé.
J'ai rigolé, mais il y a... Enfin, tu vois, Nicky Larson avec Jackie Chan, j'ai rigolé et j'adore encore à l'heure actuelle. L'adaptation de Nicky Larson de Philippe Lachaud, je rigole et je déteste aussi. Et c'est pour moi.
Il y a beaucoup trop de personnalité dans cette petite
enveloppe. C'est exactement là-dessus que je veux arriver. C'est que ça dépend tellement de toi et de ton ressenti, de ce que tu veux voir. Est-ce que tu veux voir un truc auquel tu es habitué, que tu connais et que tu veux repérer toutes les refs que tu as. Que toi, t'as envie de projeter là-dedans, ou est-ce que t'as envie d'être surpris avec une œuvre que tu connais, mais où on va t'amener sur d'autres choses. Du coup, c'est pour ça, moi, j'ai pas d'avis là-dessus, parce que je sais que je suis mon pire ennemi, tu vois, là-dedans.
Et toi, Maxime, les adaptations de manga au cinéma, pour toi, est-ce qu'elles sont de qualité ?
Par contre, tu veux pas te parler à toi-même en me regardant.
Alors que le gars vient de faire un pitch d'une demi-heure
pour nous dire qu'il avait pas d'avis.
Non, mais il m'a regardé dans les yeux en me disant « Et toi, Maxime, c'est quoi ton point de vue ?» Tu vois, enfin, non, c'est bon, là, faut arrêter.
Bon, Maxime. Maxime, auditeur, dis-nous ton avis sur la question.
À vrai dire, je regarde pas tant d'animés que ça, encore moins en film. Mais par contre, j'ai remarqué que depuis post-Covid, il y a un peu une tendance de faire non pas des films qui adaptent l'intégralité de l'œuvre, mais qui vont adapter un arc. Et au final, on se retrouve juste avec un épisode long, qui peut être très bien au demeurant. Hein. Je suis certain que Chainsaw Man, ça va être sympa. Mais typiquement, Demon Slayer, j'ai l'impression, en tout cas, je ne suis pas allé le voir, que c'est juste un épisode long d'une heure et demie où bah, on a plus de budget que pour une série normale, avec des temps plus longs. Et, mais après, en termes de plus-value, de voir ça sur une application Crunchyroll ou autre, ADN, etc., est-ce que aller au cinéma, ça ajoute de l'expérience, enfin ça ajoute du plaisir à l'expérience? Je suis pas certain. Et L'Attaque des Titans, Demon Slayer, Chainsaw Man, à chaque fois, bah c'est des adaptations d'arc en particulier.
C'est un nouveau
personnellement,
modèle,
je suis pas forcément client.
C'est un nouveau modèle de business en fait, parce que du coup, ils gagnent de l'argent sur les entrées au cinéma. Ensuite, il redécoupe en épisode, il regagne de l'argent et ainsi de suite.
Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais après je pense que par rapport à ce que tu disais sur quel est l'intérêt d'aller au cinéma voir ça, je pense qu'il y a aussi le principe de l'expérience collective. C'est quand même ça à la base, aller au cinéma, c'est aussi aller dans une salle avec d'autres gens et partager un peu sa passion de tel truc, tu vois, de tel type de film ou du cinéma en général. Mais là, tu vois, si c'est sur une licence en particulier où tu sais... De toute façon, moi, j'avoue, c'est un peu une des questions aussi que je me pose quand je vois... un long métrage Demon Slayer sur un arc en particulier, je me dis mais qui va voir ça en fait? C'est forcément des gens qui connaissent déjà la licence, parce que tu peux pas être Alors je pense qu'il y en a, mais du coup je me demande qu'est-ce qu'ils ressentent face à ce type de proposition, parce que si t'es pas dans le délire et que t'arrives, tu vois Demon Slayer alors que t'es pas là depuis le tome 1, je pense que tu comprends rien. Enfin, si ça se trouve les films sont suffisamment bien faits pour leur expliquer et tout, mais par contre je pense que pour les fans, ce qui est super agréable, c'est d'aller au cinéma avec d'autres gens dont tu sais au final que dans la salle, il va y avoir des passionnés comme toi de la même œuvre. Et là, il y a vraiment une expérience de partage, une expérience collective. C'est ce qui est l'essence du cinéma à la base pour moi. Quoi. Après,
et nous, les gens qui aimons aller au cinéma le matin quand il n'y a personne, ouais, qu'est-ce que ça dit de nous?
Pour aller voir des bachelors,
bah, qu'il faut que vous trouviez un travail, là, à un moment donné.
Maxime vient de parler de nous. Donc, on est d'accord qu'il dédouble sa personnalité. Ça me paraît de plus en plus inquiétant.
On est nombreux à être deux dans une salle de cinéma le matin.
Je pense que ce qui est marrant dans ces séances-là, c'est parce que j'imagine qu'il y a plein de darons qui amènent leurs enfants voir les films. Et du coup, il peut y avoir un truc un peu marrant aussi de voir des gens, en l'occurrence, pas forcément très réceptifs à l'œuvre de base et être, tu vois... Qu'est-ce que eux ils vont penser de ça, tu vois? Et ça, moi j'avoue, je trouve ça assez marrant de créer des situations comme ça. Ça, c'est intéressant.
Ah oui, bah pour échanger, ça c'est quand même la base. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu une période où on n'échangeait pas trop sur nos passions quand on était amateurs de manga, on va dire. Et que là, il y a de plus en plus d'occasions, en tout cas, de faire connaître ou d'amener des publics très novices. J'essaye de retrouver cette... Enfin, ma dernière expérience de long métrage, en tout cas d'animation, et je n'en ai pas trop.
Bah, moi, les dernières expériences d'animation que j'ai trouvées très intenses, elles ont toujours été hors manga. Mais tu vois, les derniers trucs d'anime que j'ai kiffé, ça n'avait à chaque fois rien à voir avec le manga.
Mais par contre, je trouve que ça donne un indice du niveau de mainstreamisation de ce qui est devenu le manga, parce que franchement aujourd'hui voir des affiches, alors c'est pas du 4x3 sur les quais, mais dans les couloirs du métro, des affiches Chainsaw Man gigantesques, enfin tu vois, tu voyais pas ça il y a 15 ans quoi.
Il y a 15 ans, mais ça veut pas non plus dire que les entrées sont folles.
En tout cas si tu vois, si les annonces, enfin en tout cas les producteurs font cette démarche là, ça veut dire que ils estiment que le grand public est en capacité ou tu vois pourrait aller voir ces propositions là donc je trouve que ça donne un indice quand même de se dire putain, le manga ça y est, c'est devenu un truc légitime à être dans les couloirs du métro,
il faut aller voir les films quand ils sortent et compagnie. Alors,
mais les records, ça reste Pokémon et Ghibli, quoi.
C'est là que toi et ton sauce là vous cassez toute l'ambiance.
En plus vraiment tu mets sur le même pied.
Je suis désolé Maxime, je le fais en aparté, je suis désolé.
Tu mets sur le même pied un truc qui est vraiment de l'ordre du cinéma au sens, tu vois, genre Ghibli, non, quoi. Ça fait quand même 30 ans que c'est vraiment
j'invoque les chiffres français
cinématographiques et Pokémon, quoi.
Maxime, prends une autre décision. N'invoque pas les chiffres.
Non, mais après, moi, je suis désolée, je fais le pas de côté. Hein, et pour moi, c'est aussi toutes ces productions qui sont disponibles, notamment sur des plateformes qui ne sont pas des longs métrages, ou qui peuvent être des longs métrages aussi. Maintenant, tu as quand même cette arrivée du dessin animé, et en plus des trucs, comment dire, si on m'avait dit qu'il y aurait un remake de Ranma 1 demi en 2025, j'aurais...
plutôt très cool, hein,
oui,
pour le coup.
Et qui fédère aussi un nouvel enthousiasme, des gens qui disaient « Ah bon, mais j'étais passé à côté, ah mais j'avais oublié », ou qui étaient restés aussi sur les doublages français de l'époque, ouais. Et qui là redécouvrent complètement une œuvre, c'est très sympa.
Mais il y a un vrai truc où nous aussi, on doit lâcher ce truc de vieux con, tu vois.
Ah, complètement.
Et te dire que même des œuvres des années 80 ou 90... on doit assumer et accepter les nouvelles versions de ce que nous, on a pu kiffer il y a 10 ou 20 ans. Et ça, je pense que c'est vraiment important, par contre.
C'était donc la question de Clarence. Merci à Clarence, de l'avoir posée. Merci, Maxime, d'être venu dans cette libre antenne avec nous.
Merci, Maxime.
Eh bien, merci beaucoup à vous et bon courage pour la suite de l'épisode.
Merci, ciao, salut.
Salut,
salut.
Salut,
salut. Maxime. Ciao.
Et la suite de l'émission, ça va être maintenant... avec, tu me regardes Kania, avec Baptiste. Tu vois, on a changé de prénom.
Ouais, rien à voir.
Tout va bien.
Bonjour Baptiste, bienvenue dans la cinquième de couve.
Et bonjour à vous tous.
Salut. Salut.
Et du coup, je vous remercie de me contacter. Et ce soir, j'aimerais vous parler. Tout d'abord, j'ai deux petits sujets, mais le premier, pour les 20 ans de Full Metal qui arrivent bientôt. Je voulais en parler un petit peu et faire un peu un retour de ce manga-là avec vous. Vous avez fait une émission qui en parlait il y a 4-5 ans, je crois, à peu près.
Non, il y a un an, il y a moins d'un an. On l'a fait au mois de décembre de l'année dernière.
Parce que, alors, je n'ai pas écouté celle-là, parce que moi, j'ai entendu la première.
Alors, attention, on est peut-être en présence d'un voyageur temporel. Faut pas le vexer, faut lui dire qu'il est dans la bonne époque. Vas-y. C'est tout bon, ça fait 5 ans, tout ça. Vas-y, raconte-nous ta réalité. Comment ça se passe chez toi, Full Metal Alchimiste?
C'est toujours aussi bien, même 40 ans plus tard, même dans 70 ans. Plus sérieusement,
parfait.
Parfait. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus pour un truc aussi bien? Non, c'est... pour le coup, j'arrive pas à peu près à savoir votre âge, je vais pas trop parler, mais moi, du coup, j'ai eu 30 ans cette année. Et c'est vraiment, FMA, ça a été vraiment le premier animé slash manga que j'ai découvert en tant que jeune enfant. Peut-être pas le meilleur truc à découvrir quand on est jeune, parce que, avec du recul, peut-être quelques traumas, je sais pas, faudra que j'arrive à revoir plus tard. Mais, c'est vraiment genre le premier truc. En plus, du coup, j'ai découvert ça, je crois que c'était 2004, 2005, donc j'avais 9-10 ans. One Piece et Naruto, c'est que c'est déjà, mais m'en foutais un petit peu. Et vraiment, je suis tombé sur ça. Et depuis que je suis gamin, j'ai vraiment une fascination pour l'univers, pour le monde, pour le manga. Et à chaque fois que j'ai relu ou que je suis retombé sur l'œuvre, en grandissant, en devenant plus mature, en ayant plus de culture, j'ai toujours trouvé un nouvel axe de réflexion, un nouvel axe de... c'est pas de ouais de ouais vraiment de réflexion et de vision. Et je voulais du coup pour tes 20 ans savoir vous aussi qu'est-ce que vous ressentez pour votre ce manga. Est-ce que pour vous il est vraiment parti vraiment d'une œuvre majeure, genre du début de la décennie 2000, etc., ou si c'est juste moi qui suis un peu délu et qui a aucune culture?
Non, voilà. Non, en fait, je fais même, je vais répondre à côté pour commencer. À chaque fois qu'on fait une libre antenne, on a toujours quelqu'un qui a envie de nous parler de Full Metal Alchemist. À chaque fois, c'est systématique. Donc ça veut quand même vraiment dire quelque chose.
Un gage
et
de qualité.
Et c'est exactement pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une libre antenne et qu'on parle de Full Metal Alchimiste, je ferme ma gueule.
À vous. Ah, que t'aimes pas? Premier degré, genre moi je peux comprendre aussi. Hein.
Non, Cagnard, on le laissera. Non. Ça pas. Mais pour répondre à ta question, je pense que dans l'équipe, on est un petit peu plus âgé que toi, donc on n'a pas forcément le même ancrage émotionnel et tu vois, nostalgique vis-à-vis de l'œuvre et tout. On est plutôt des quarantenaires ou des quarantenaires en devenir, on va dire, dans l'équipe. Donc on a plus grandi avec avec Dragon Ball, avec le club d'eau, avec tout ça. Mais mais on a, je pense, découvert aussi Full Metal à un âge, bah quoi, ado ou très jeune adulte. Donc aussi à un âge où on pouvait être très réceptif à l'œuvre et tout. Donc on est globalement, je parle pas pour Cagnard, mais on est globalement quand même assez, même voire très fan de l'œuvre et tout. Et ouais, moi je pense, je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est une œuvre majeure pour moi du shonen et du manga au sens plus large. Et je pense qu'on en a déjà parlé dans cette émission, mais il y a toutes les composantes intrinsèques à l'œuvre. Il y a aussi, à mon avis, le profil de son autrice, quoi, qui est vraiment une personnalité aussi à part dans le paysage manga. Déjà, le fait que ce soit une autrice de shonen, c'est déjà un truc assez, pas inédit, mais en tout cas assez rare. Et je pense que ça participe aussi de la personnalité du titre. Et mais moi, complètement, enfin moi je trouve que Full Metal, c'est un... Clairement, je le mets dans mon au moins top 10 des meilleurs mangas de tous les temps et top 5 des meilleurs shonen. C'est quasiment certain. Et parce que voilà, c'est... Les personnages, la profondeur des thématiques et en même temps cet équilibre entre le cool et la profondeur des thèmes qui fonctionne super bien. L'humour, enfin moi voilà, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais je trouve que c'est un des mangas les plus drôles qui soit, alors que vraiment ce qui est raconté dedans est horrible, mais je trouve que justement ça crée vraiment la bonne soupape, quoi. Et vraiment, ouais, non, moi je suis complètement d'accord avec toi que c'est un manga complètement majeur dans le médium, quoi.
Julie,
ouais.
Tu levais la main.
Oui, parce que, enfin, pardon, mais je suis assez contente. Effectivement, à chaque fois qu'on en parle, il y a plusieurs. On crée des occasions d'en parler parce qu'on a envie d'en parler. Que généralement, on termine les émissions sur Fullmetal Alchemist en se disant ah, on a oublié de parler de ça, on n'a pas eu le temps d'évoquer tel truc. Et autre chose, c'est que il y a pas très longtemps, on a reçu Mathieu Bablé et lui, il nous disait qu'à 8 ans, il avait vu Akira. Donc, il y a toujours une loterie à la découverte manga. Tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber. Mais moi, je me souviens d'avoir découvert le titre. J'étais en train de faire jobs, c'était un peu ma récompense le soir de pouvoir lire des épisodes ou de regarder les épisodes
sur Canal Plus, moi, à l'époque.
Plus comment ça s'appelle, c'était le samedi, il y avait le samedi, ouais. Je me rappelle et tout.
Comment il s'appelait, Yannick le présentateur, non, il y avait un truc comme ça, c'était un mec de Game, un ancien de Game One qui présentait.
Il y avait GTO, etc.
Ouais, ça je me souviens.
Ouais, alors justement, mais quand on parle de etc. Moi je sais très attention. Bien qu'à cette époque-là, il y avait Vision d'Escaflowne. Et moi c'était mon manga. Alors c'est vrai que Full Metal a toujours été un peu un point d'interrogation chez moi, tu vois. Il y a vraiment ce truc où je vois exactement pourquoi vous aimez et je vois exactement pourquoi j'aime pas aussi. Et je pense que c'est exactement un titre qui est fondamental dans l'industrie du manga, dans le sens où l'industrie du manga n'est pas un truc où il y a des pour et des contre. Et tu sais, ça peut être deux équipes qui vont s'affronter. Je pense qu'il y a vraiment une espèce de consensus sentimental où on est tous d'accord que le manga évoque des choses sentimentales chez tout le monde. Et alors, le pire, le plus énervant chez moi, c'est que Full Metal, tout est fait pour que j'adore. Mais en fait, et je suis désolé d'avance pour les auditeurs et ceux
qui... C'est encore
qui
le problème de Cagnard avec Cagnard.
Ouais, on parle pas des problèmes de Maxime avec Maxime. Hein.
Si, justement, on l'a fait en début d'émission.
Mais on va dire que moi, je trouve que c'est un titre qui est factice. Alors, je sais, c'est compliqué. Mais rappelez-vous qu'on parle juste de ressenti de titre. Et tu vois, enfin, on en a parlé aujourd'hui, Maxime. Maxime, regarde-moi dans les yeux un peu maintenant. Là. On a parlé de Dragon Ball aujourd'hui, on est d'accord.
On a parlé de Dragon Ball aujourd'hui et alors... Non mais... Moi, j'ai failli ne pas venir à l'enregistrement aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai appris que l'arc préféré de Cagnard enfant et de Robin enfant, c'était l'arc du tournoi de Cell.
Je sais et pas pourquoi tu as parlé de Robin et de Cagnard enfant comme si on était des super Saiyans qui évoluaient, tu vois. C'est juste, c'est nos arcs préférés.
Non, dans Smash Bros, t'as Cagnard adulte et Cagnard enfant.
Oui, t'as les deux.
Tu vois,
c'est... Ah oui, j'ai pas assez doué à Cagnard Brack Boss.
Tu disais quoi, Baptiste?
C'est vraiment le link obscur, Cagnard adulte et Cagnard enfant.
Mais non. Écoute-moi. Écoute-moi. N'écoute plus les autres. Écoute-moi.
Attention, il est sur le point de se faire embarquer, là.
C'est que...
Ah mais je comprends ce que tu
ressens. Ce que tu aimes, mais... tu l'aimes et c'est comme ça. Et maintenant, moi, je sais que Full Metal, c'est quasi comme un handicap que je porte, tu vois, parce que je n'aime pas ce titre. Mais voilà, c'est comme ça. C'est moi. C'est ça ne dépend que de moi. Je suis pas en train d'essayer de convaincre les autres de dire.
Ouais, mais...
Non, c'est nul.
Est-ce que t'es capable d'expliquer pourquoi? Parce que là, tu nous dis voilà, vous aimez, moi j'aime pas, nan, mais. Et qu'est-ce qui te plaît pas?
Je trouve ça trop lambda. Je trouve ça trop obvious. Je trouve que il y a aucune finesse dans Full Metal Alchemist. Je sais, je suis en train de vous énerver, mais c'est ce que j'évoque. Je pense foncièrement. Et là, c'est pas une hot take. On n'est pas sur Twitter ou autre. Je trouve que Yu Yu Hakusho est 10 000 fois plus fin que Full Metal Alchemist. Mais ça, c'est mon avis. C'est là où ça m'a touché et jamais, à aucun moment, j'irai vous prendre en vous dire si t'as aimé cette phase de Full Metal Alchemist, c'est que tu n'as aucun cœur ou autre. C'est juste, vous avez kiffé ça, très bien, mais...
Mais il est en train de comparer des melons et des courgettes. Enfin, je suis désolée.
Je suis en train de comparer des mangas avec des mangas. Oh.
Mais surtout, l'émission avance et Baptiste avait au moins deux sujets et là, on n'en a fait qu'un.
Ah putain.
Il faut qu'on passe au second, Baptiste.
Désolé, Maxime.
Et le deuxième, bah, du coup, en fait, c'est par rapport à un manga qui est un peu plus récent et que moi, je trouve incroyable et qui est encore écrit par une femme, comme quoi... C'est Gachi Akuta écrit par Keiwana et moi je sais pas, je suis peut-être délu ou autre, mais je suis tombé en amour dessus et j'aime trop commencer, j'aime trop le dessin, j'aime trop la DA. Peut-être que je suis encore une fois élu, aucune culture ou autre, mais je sais pas, moi je...
Ah bah non.
Ah mais si, je pense que c'est ça le problème.
Ah non. Ne l'écoute pas,
c'est ça le problème, t'as aucune culture.
Ne jamais tendre de perche à Cagnard.
Ah oui, non mais là c'était pas une perche, hein, c'était un câble télescopique.
Arrête de lire, arrête de regarder les trucs. Ta vision, elle n'a aucun sens.
Mais faites-le taire. C'est très bien, Keiurana.
En fait, le problème, c'est qu'après, j'ai des trucs beaucoup trop obscurs qu'on ne peut pas dire ici, etc. Et tout. Et ma culture, elle est plus de base.
Comment ça
Elle est plus web novel. Elle est plus web novel déjà de base. Moi, je suis plus Michel qui adore lire des œuvres à 350 chapitres de 75 pages, genre Lord of Mystery et trucs comme ça.
Mais du coup, Gachi Akuta.
En fait, c'est juste que.
Dis-nous.
Je sais pas, genre, pardon, excuse-moi, je vais essayer de recentrer. En
vas-y,
fait,
vas-y.
C'est l'œuvre où. Parce que j'avoue que moi, les shonen de base, j'aime vraiment pas spécialement ça. Parce que pour moi, FMA, j'avais vu ça comme un shonen, mais ça, techniquement, c'en est un. Et en fait, Gachi Akuta, je suis. Comme je le dis, c'est que, ben. Je lis très peu de shonen, je suis plus seinen ou autre. Comme ça, et en fait, quand je suis tombé dessus, j'ai adoré juste le personnage qui, en fait, il m'a rappelé, juste encore une fois, comme a dit Cagnard, c'est vraiment une question d'affect. Mon petit frère, quand il était plus jeune, quand il a le petit, le pauvre, un gamin qui s'est fait plus ou moins harceler toute sa vie, etc., parce que tel qu'il était, et voir ce côté un peu de. Un gamin prêt à tout pour se venger, c'est un peu vénère comme ça, mais.
Non, mais pour avancer, peu, voilà, en tout cas.
Voilà, pour avancer, et le fait que moi qui adore le street art depuis que je suis gamin et que j'en ai fait des possibles que... Bref, un passif et un passé un peu illégal, bref. Mais que du coup, genre, juste avoir une vraie œuvre qui parle de d'art de rue et de street art avec une vraie DA, c'est bête, mais moi, ça m'a vraiment plu. Et genre, je suis vraiment
c'est pas bête. Alors, qu'on soit d'accord, c'est pas bête du tout. Gachacuta a vraiment une DA très street art et qui, d'autant plus, a vraiment un écho à l'heure actuelle, tu vois.
Pourquoi et tu vraiment.
Bah, non, parce que t'es très street art, Lully. Mais ce que je veux te dire, c'est que ne te sens pas à part parce que tu aimes ça. Au contraire, c'est vraiment. Oh, mais... T'as trouvé ton truc dans le manga, c'est trop bien.
Mais surtout que c'est quand même de plus en plus populaire, Gachacuta.
Ah, bah écoute, on était, je sais pas, plus de 2000, 3000 à regarder en avant-première l'animé à Japan Expo. Donc on n'est pas si à part que ça.
Et Kayu Rana était ce week-end en Europe, puisqu'elle était au festival de Luca en Italie.
Et c'est vrai que nous, en plus, à l'époque, quand c'est sorti, on en avait parlé parce qu'on avait ressenti les mêmes qualités que ce que tu nous dis. Et c'est un titre dont on parle finalement pas tant que ça dans cette émission, on en a un petit peu reparlé, mais voilà, c'est un titre, je pense, qui, ça y est relativement récent, mais commence à s'installer et tout, et clairement ça fait partie des titres qu'il faut pas laisser sous le radar, parce que je pense qu'ils sont très intéressants à suivre aussi.
Je vous donne rendez-vous au mois d'avril, il y aura comme chaque année, le vote de nos mangas à suivre, et normalement il y aura Etsugai, le nouveau manga de Arakawa, et Gachacuta dedans.
J'aime beaucoup aussi, mais c'est encore une fois. Mais je suis, moi, Arakawa, le problème, c'est que je suis vraiment un fanboy. Je ne suis vraiment pas objectif avec elle.
Il n'y a aucun souci.
J'ai adoré.
Il n'y a pas besoin. De...
Enfin bref.
Je vais y aller. Il n'y a aucune raison d'être objectif. Ne te sens pas d'être objectif. Ça n'a aucun sens. Sois juste toi-même. Lis les titres que tu aimes bien et arrête-toi là.
Et t'as raison. Quoi qu'il arrive, tu as raison.
Mais en fait, je pense que surtout Gachacuta, pourquoi ça marche bien, c'est que, ben, qu'on le veuille ou non, un animé, quand il est bien, il porte beaucoup. Après, ça peut attirer les gens à le lire, etc. Et vraiment, c'est ça. Et puis, ben, l'animé est vraiment cool. Moi, j'étais très content parce que c'est un de mes groupes de métal favoris qui a fait le premier opening. Et du coup, j'étais en mode, enfin, un vrai opening métal qu'on n'avait pas vu des années avec un vrai groupe bien vénère. Du coup, ça fait un peu plaisir. Ça me rappelle, moi, quand je regardais Death Note et qu'on avait Maximum The Hormone. Mais voilà. Je dis j'essaie d'être objectif parce que dans mon métier, il faut que je sois objectif. Donc, j'essaie aussi de rationaliser beaucoup ma culture. Alors qu'il ne faut pas, parce qu'en vrai, tu aimes ce que tu veux, tu kiffes ce que tu veux. Bon, il y a des trucs qu'il ne faut pas aimer, genre... voilà.
tu t'arrêtes
attention,
au bon moment.
Attention, voilà.
voilà. Mais c'est juste que je trouve ça cool surtout d'avoir des encore une fois rien à voir mais dans Gachacuta ce qui est bien c'est que ça me concerne pas mais d'avoir par exemple deux personnes racisées qu'on voit qui sont dans la brigade qui sont des personnages ni stéréotypés qui sont cool stylés et c'est tout bête mais moi j'ai des potes quand on lui donne la représentation des personnes noires etc et tout dans des mangas ça peut être compliqué ou à tout moment où il y a une bref, on va pas trop développer et que du coup d'avoir des potes à moi qui sont en vrai c'est vachement cool parce que on peut en parler, on peut faire des cosplays un peu stylés et tout. Tout bête hein, mais moi ça.
Non,
ça
mais en vrai t'as raison, etc. T'as raison. Avoir des personnes racisées est de base intéressant dans ce manga, ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit de manière générale dans le manga. Maintenant, je pense pas que ça soit le but absolu de ce titre.
Merci beaucoup en tout cas, Baptiste. D'être venu dans cette émission. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous.
Merci, ouais.
Merci beaucoup, Baptiste.
Merci.
À très bientôt. Ciao.
Salut.
Et la suite de cette émission après Baptiste, maintenant, on termine avec Yanis. Salut, Yanis. Bienvenue dans la cinquième de couve.
Bonsoir.
Bonsoir, Yanis.
T'es déjà venu, Yanis. On t'a déjà eu.
Oui, une fois. Une fois, et c'était avec plaisir que t'es venu.
On avait parlé de quoi ?
De l'avenir un peu du manga, est-ce que ça allait rester ou pas dans nos rayons ?
Es-tu rassuré ?
Yanis est en mode SAV. Ouais. Je vous ai parlé d'un truc.
Vous avez fait plaisir à ma famille.
Ah ouais ?
Oui.
Comment ça ?
Mais ils ont écouté et tout, donc ils ont écouté Yanis et ils ont fait « Ah, trop cool !»
Ah oui.
Et donc, tu voulais nous parler de quoi cette fois? Parce que du coup, on a vu que, bon, alors, finalement, on a dit oui, le manga va rester. Alors, il reste moins, hein, y a des rayons qui disparaissent.
Mais il reste.
Moi, dans mon Super U, il n'y a plus de rayons manga, par exemple.
Ah, tristesse.
Ouais, je déteste ça, Super U maintenant.
C'est, ouais, mais c'est pas le manga le problème, c'est la grande distribution.
Oui, oui, c'est possible.
Je jette un pavé dans la mare, mais.
Non, mais il y a peut-être des Super U où il y a encore des mangas, mais pas dans le mien.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu la première intervention de Yanis?
Non, parce que du coup, on va parler de sa nouvelle intervention, parce qu'il nous reste que 5 minutes dans cette émission. Tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui, Yanis?
Alors là, c'est un sujet que je propose qui est beaucoup moins général. C'est plus sur un auteur en particulier, Negi Aruba. Je pense que je ne sais pas si vous voyez.
De Quintessential Quintuplette.
Ah.
Alors, Quintessential Quintuplette et de Lone Ranger. Non, c'est quoi le...
No Longer Ranger.
No Longer Ranger, exactement. Et alors, donc du coup, pour ceux qui ne voient absolument pas de quoi ça parle, Quintessential Quintuplette, on est sur un rêve manga avec un lycéen qui se retrouve à donner des cours à des quintuplés. Et après, bah, c'est le principe du rêve manga, donc elles sont toutes plus ou moins amoureuses de lui. Et à la fin, je pense qu'il se marie avec l'une d'elles. J'ai pas lu la fin, donc je ne sais pas. Ne spoil pas la fin si tu l'as lu, Yanis. Mais voilà, on est d'accord que c'est ça le concept. Et qu'est-ce qui t'amuse le plus dedans? C'est quoi? C'est la partie drague? C'est le blague au milieu? C'est quoi?
Ouais, justement, avec Stotter, alors dans Quintuplé, je vais réduire le nom, là-dedans, il y a évidemment cette partie, mais je trouve là où Stotter est bon, c'est sur le développement des personnages. Parce que, bah, par exemple, on voit qu'il y a une inspiration, par exemple, de Nisekoi d'il y a quelques temps déjà, ou même de Negima, l'auteur le dit lui-même. Et ici, il y a quand même 5 personnages, enfin 6 avec le garçon, et c'est assez dur, je pense, de développer les 5 plutôt équilibrés. Et là, il le fait plutôt bien. Et je trouve, enfin, c'est mon avis après, mais je trouve ça assez difficile de le faire. Et surtout, là où ça rejoint ce que c'est plus sur l'auteur, c'est son changement de thématique totalement énorme avec son nouveau manga No Longer Ranger.
Qui parle de quoi du coup? Est-ce que tu peux expliquer?
Sur du Sentai en gros, mais du Sentai.
De
en...
l'anti-Sentai.
Ouais, de l'anti-Sentai, exactement. Dis-nous en plus, Yanis.
Pour les auditeurs qui écoutent, si jamais il y en a qui voient ce que c'est la série The Boys, bah, c'est à peu près ça. À peu près.
C'est faux.
On résume.
Un cagnard taquet pour toi. Bah,
du coup, c'est faux.
Et du coup, tu arrives à percevoir comment ce qu'il a fait, parce que visiblement, moi je avoue, j'ai lu ni l'un ni l'autre, donc je pose une question complètement innocente, mais tu arrives à voir comment le mec est passé d'un manga de harem à un manga de Sentai ou anti-Sentai, je ne sais pas, mais en tout cas, comment il a pu puiser dans son œuvre précédente pour l'intégrer dans son œuvre suivante? Tu l'as senti ou tu justement, ta question c'est de te dire, waouh, cet auteur, il est vraiment passé d'un truc à l'autre et je ne vois pas du tout le rapport entre les deux. Et comment c'est possible qu'un même auteur puisse faire deux choses aussi différentes?
Bah justement, c'est plus ça. Okay. Alors, on sent quand même une inspiration. On sent quand même le côté, il y a 5 rangers comme 5 filles dans son ancien manga. On reconnaît la référence. Et sur ce graphique, qui pour moi, ce qui est plutôt bon, c'est qu'on reconnaît bien. Moi, j'aime bien comparer, souvent j'explique un peu son style graphique. C'est un peu une combinaison c'est le rythme de Chainsaw Man, de Fujimoto, et le dessin de Blue Lock. Enfin, je trouve.
Non, moi, je pense que ça fait partie de ces auteurs qui peuvent passer d'une chose à l'autre. La semaine dernière, je parlais de l'auteur qui est passé de Hanebad, manga de badminton, avec une histoire d'amour au milieu et tout, au Roi Servin, qui est un seinen
dark fantasy
total. Je pense que pour Negi Aruba, c'est un peu le même esprit. Il avait vraiment envie de changer de style, mais c'est vrai qu'il était très très populaire sur Quintessential Quintuplette, donc ça a peut-être pas dû être facile pour lui de changer aussi de manière drastique.
Mais c'est rigolo de se dire, du coup, si le chiffre 5 est commun aux deux œuvres, bah, tu peux te dire, oui, ça peut être sa petite coquetterie de se dire, oui, moi, dans mes œuvres, il y a toujours le chiffre 5, j'en sais rien. Mais après, c'est vrai que ça pose la question aussi plus large de le manga. C'est un médium assez particulier dans le sens où souvent les dessinateurs sont aussi les auteurs. Et ce qui n'est pas toujours le cas en bande dessinée, par exemple, tu peux avoir des scénaristes et des dessinateurs, et tu peux très bien avoir un dessinateur qui va passer d'un style et d'un registre à l'autre parce qu'il se met au service d'une histoire écrite par quelqu'un. Et voilà. Mais là, c'est vrai que dans le manga, le fond et la forme sont vraiment liés intrinsèquement, et c'est assez rigolo de se dire, effectivement, je trouve que c'est un des rares médiums où tu peux voir un auteur ou une autrice passer d'un registre à l'autre tout en te disant je vois que c'est la même personne qui a fait ces deux œuvres, mais en même temps elles ont rien à voir entre elles et c'est rigolo quoi.
Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas forcément fait le rapprochement. Toi, si tu l'avais pas su, tu aurais fait le rapprochement entre No Longer Rangers et Quintessential Quintuplet, Yanis?
Alors, bah, comme je le savais avant, c'est un peu ce qui m'a fait la pub d'ailleurs d'aller voir No Longer Rangers. Je reviendrai dessus après. Je pense que oui, j'aurais remarqué peut-être que c'est lui avec le style graphique, mais sinon, absolument pas. J'aurais pas du tout relié.
Oui, on est d'accord. Et tu voulais revenir sur quoi du coup?
Que, bah justement, sur l'aspect que No Longer Rangers marche un peu moins bien, déjà, j'ai l'impression. Parce que, par exemple, Quintuplet, lui, avait, je crois, plutôt bien cartonné. Il avait d'ailleurs remporté un prix du Kodansha Award, je crois, il me semble. Et bah, c'est, je crois, c'est un des piliers maintenant de la rom-com populaire. Après, c'est assez récent. Et bah, ça a permis aussi une pub pour son manga suivant, parce que les gens de Quintuplet sont partis sur le nouveau. Mais je vois. En tout cas, en France, il marche pas tant que ça. Et même dans le monde. On est à en estimation 2025, il me semble, entre 2 et 7 millions de copies en circulation.
Le Sentai, c'est compliqué. C'est souvent il y a
le Sentai en France.
Ouais. Enfin, et c'est vrai que il y a des gens qui sont très amateurs, qui vont être des grands fans, mais pour toucher un très large public, je pense qu'il y a des codes à connaître et que peut-être il y a encore des lecteurs qui sont un peu frileux pour s'aventurer sur des choses comme ça.
Surtout qu'aujourd'hui, on est déjà à 19 tomes hein, pour No Longer Rangers, et ça aussi, ça peut.
Ah, ça peut être un argument
freiner,
aussi,
ouais.
Complètement.
C'est pour moi, il y a limite un côté où tu passes d'une niche à une autre niche.
Je suis complètement d'accord avec Kayar.
Bah, du coup, les deux niches ne se mélangent pas forcément, tu vois.
Chacun sa niche.
Non, mais ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre.
Ah non,
vois,
pas du tout.
Bien sûr, bien sûr.
Effectivement, il y a un truc, un peu compliqué.
Ouais, la passerelle entre les deux n'est pas évidente, parce que c'est vrai que tu passes d'un public quand même très captif. Enfin, voilà, le public harem manga est quand même il est large. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment ça, mais... C'est un public très spécifique parce que c'est un type de manga qui a des codes. Voilà, moi, typiquement, à titre personnel, ça m'a jamais touché, mais en même temps, c'est con que Johnny soit pas là dans cette émission parce que lui, il aurait eu peut-être un avis très pertinent. Mais je veux dire, lui, je sais qu'il il aime ça et du coup, il va repérer les codes qui lui plaisent et tout. Et d'ailleurs, je crois qu'il en avait parlé de ce titre et ça lui avait plu justement pour la manière dont ce titre avait pu renouveler ou pas le genre. Et le Sentai, c'est le même truc, quoi. Tu t'adresses à une niche qui connaît les codes, qui aime ça, qui aime comment on peut les twister et tout. Mais voilà, c'est deux niches qui, forcément, sont pas forcément...
Même sur No Longer Rangers, il va jouer avec ses codes pour s'amuser avec les livres. Mais du coup, il faut les connaître.
C'est peut-être ça, sa patte. Parce que déjà, dans Quintessential, il était... Comment dire, c'est vrai que c'était du harem, mais il y avait aussi une très large part du manga qui était de la rom-com pure. Et je pense que c'est là où ça a eu un bon, des bonnes critiques et un bon engouement derrière, parce qu'il a bien trouvé l'équilibre entre des choses qui étaient peut-être un peu en train de vieillir, quoi. Le harem des années 2000 était peut-être un peu figé, un petit peu trop, un peu trop connu et plus assez intéressant, et lui il a eu l'idée d'apporter une très grande dose de vraiment bons sentiments c'est peut-être ce qu'il va réussir à faire après sur ce manga de Sentai.
Yanis, si tu veux répondre à Julie et avoir le dernier mot de cette émission, c'est à toi.
Je suis totalement d'accord, enfin, j'ai pas trop dit,
tu peux ne pas être d'accord.
Vraiment. En fait, c'est vrai que j'avais pas vu l'aspect que c'est vrai que le Sentai est pas un genre non plus où il y a pas, c'est pas, ça reste une niche, ça, je l'avais pas un peu vu comme ça, mais c'est vrai, en plus je connais totalement, j'ai pas pensé. Et puis sur le côté que oui, je suis d'accord, enfin j'ai pas trop.
Merci en tout cas Yanis d'être venu dans la cinquième de couve une fois de plus, et puis tu reviens quand tu veux.
Bah oui, carrément.
Avec plaisir, j'ai trop d'autres sujets.
Ah bah oui, merci.
On te fait confiance.
On te fait confiance,
toujours numéro 1.
Salut Yanis.
Salut Yanis.
Et merci à tous d'avoir écouté cette libre antenne de la cinquième de couve. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler de manga français de l'année, avec notre petite sélection comme tous les ans. Merci à tous d'avoir écouté la cinquième de couve. À la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Merci.
Salut.